Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. 2 Français sur 5 sont aujourd'hui en télétravail en raison du Covid-19. D'autres sont en chômage technique, chômage partiel. Et si cette période nous permettait de faire le point sur nos compétences? Il existe un service gratuit, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. On en parle tout de suite avec Marie Delon, responsable de l'organisation du CEP en Occitanie. Salariés, intérimaires, indépendants, vous vous posez peut-être des questions sur votre métier. Savez-vous vers qui vous tournez? On a la réponse avec Marie Delon. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable de l'organisation du CEP en Occitanie. Alors CEP, Conseil en organisation professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est d'abord un service gratuit et l'objectif, c'est d'avoir un moment pour soi, pour réfléchir à sa situation professionnelle, de disposer d'un temps d'écoute pour formaliser un projet professionnel et être aidé à le mettre en œuvre, que ce soit un projet de changement de métier, de formation, d'évolution, peu importe le projet.
Alors, c'est peut-être le moment de se poser des questions sur son futur professionnel, sur son avenir.
Le fait d'être justement en télétravail ou en tout cas soumis à des modalités professionnelles différentes de d'habitude, ça peut effectivement permettre de disposer d'un peu plus de temps pour réfléchir à son évolution, à sa situation professionnelle.
Alors, vous nous dites que c'est gratuit. Comment ça marche? J'ai plein de questions. Qui finance? Comment ça fonctionne? Qui met ça en place? On va commencer par la première. Qui finance en fait?
Alors, effectivement, c'est un service gratuit, mais qui est finalement financé par les entreprises, on va dire, pour résumer, les entreprises du secteur privé, puisque chaque année, elles versent une cotisation pour la formation professionnelle. Ouais. Et c'est une partie de ces cotisations qui va servir à financer ce service gratuit pour les salariés et les indépendants.
Alors, ce service gratuit est mis en place de quelle manière dans nos villes, nos régions?
Alors, c'est mis en place de façon très territorialisée puisqu'il y a des conseillers qui interviennent vraiment partout dans chaque département de la région. Les organismes qui vont délivrer ce conseil en évolution professionnelle, ils ont été désignés via un appel d'offres et ils délivrent ce service donc depuis janvier 2020. Donc on a les CIBC et les chambres consulaires.
Alors les CIBC, chambres consulaires, si par exemple aujourd'hui je me pose des questions sur mon avenir, comment je fais pour vous contacter? J'appelle qui?
Alors, il y a un numéro unique du coup pour avoir des renseignements et prendre un rendez-vous qui est le 09 72 01 02 03. Et puis, il y a également un site internet sur lequel on peut prendre des renseignements qui est mon-cep.org.
Mon-cep.org. C'est vrai que, pardonnez-moi, ne soyez pas blessé, mais on parle peu de vous. On vous connaît peu.
C'est bien dommage, puisque ce service de conseil en évolution professionnelle, finalement, il existe depuis plusieurs années.
Marie, expliquez-nous concrètement ce qu'on peut attendre de vous. Est-ce qu'on va vous voir si on a envie, par exemple, de changer de métier, si on a un projet professionnel, ou est-ce qu'on peut aller vous voir si, par exemple, on n'est pas bien dans son job?
Il y a plusieurs raisons de faire appel au conseil en évolution professionnelle. Il y a effectivement des envies de changement de métier ou de changement d'entreprise aussi. Et ça peut être également un moment de sa vie où on s'interroge sur sa situation professionnelle, où on se sent effectivement moins bien dans son poste, moins bien dans son entreprise. Et l'objectif de ce service-là, c'est de faire le point. Donc, c'est voir aussi quels sont les points positifs, les points négatifs de ma situation professionnelle, est-ce que j'ai envie finalement de changer.
Est-ce que vous avez beaucoup de demandes en ce moment d'accompagnement?
Alors en ce moment, il y en a moins que d'habitude, mais là ça commence à repartir. C'est vrai que le confinement, en tout cas les premières semaines de confinement, n'ont pas permis finalement de voir une augmentation, on va dire, des demandes de rendez-vous. Mais là, ça revient à peu près à la normale. Les gens se sont habitués, je pense, à la situation sanitaire, malheureusement. Et donc là, on recommence à avoir des rendez-vous.
Et profite de cet outil aussi, parce que vous remarquez qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement sur l'après, sur la remise en route, sur l'après-confinement.
Oui, il y a des salariés qui se questionnent, hein, qui sont en activité justement partielle, qui peuvent avoir peur aussi pour l'avenir de leur entreprise. Enfin, malheureusement, c'est des situations qui vont pouvoir se constater et du coup qui veulent peut-être anticiper justement tout ça en préparant un projet de formation ou un projet de transition professionnelle.
Oui, tout à fait, tout à fait. Imaginons, on va vous voir avec un projet. J'ai envie de créer mon entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Jusqu'où va votre accompagnement?
Alors déjà, il y a toujours dans le conseil en évolution professionnelle un premier niveau, on va dire, de conseil, dont l'objectif est de vraiment poser la situation professionnelle, définir ensemble quels sont les besoins d'accompagnement et définir également les modalités d'un accompagnement un peu plus approfondi en fonction des besoins. Donc, quand il y a un projet de création d'entreprise, en fonction de là où en est la personne dans ce projet-là, soit le conseiller en évolution professionnelle peut accompagner directement la personne, soit il peut aussi finalement passer le relais auprès d'un conseiller, on va dire, vraiment expert de l'accompagnement à la création d'entreprise.
D'accord, d'accord. Et dans ce cas-là, l'accompagnement devient payant. Comment ça fonctionne?
Alors, ça dépend des dispositifs, c'est-à-dire que le CEP, dans tous les cas, c'est gratuit, mais il peut y avoir des prestations complémentaires à côté, en fonction des besoins de la personne. Ces prestations-là peuvent être gratuites, mais elles peuvent également parfois être payantes et financées, par exemple, via le compte personnel de formation.
D'accord, ok. On peut faire le lien, effectivement, entre les deux.
Oui, tout à fait.
Marie, on pourrait aussi parler des formations de salariés pendant cette période de chômage partiel. Il y a des possibilités de formation, il y a des aides aussi pour les entreprises.
Oui, tout à fait. Il y a des aides de l'État, notamment hein, pour les salariés qui se formeraient pendant justement leur chômage partiel. C'est un dispositif qui s'appelle le FNE Formation.
Donc, FNE,
FNE, c'est ça. Il y a toutes les informations hein, sur Internet. Et donc, ça permet justement, à l'initiative de l'entreprise, ça va permettre aux salariés de pouvoir partir en formation pendant cette période-là. Et ça permet du coup à l'entreprise de bénéficier d'une aide, de la prise en charge justement de cette formation.
Ça, c'est très, très important de le savoir et puis de pouvoir l'utiliser également. C'est relativement simple et rapide à mettre en place.
Alors, ce qui est sûr, c'est que le CEP, oui, c'est rapide et simple à mettre en place. Ensuite, ça dépend aussi de la réactivité de l'entreprise, mais les demandes sont traitées assez rapidement, oui.
Combien de temps peut durer un accompagnement chez vous?
Alors, c'est vraiment très variable puisque le principe, hein, c'est que c'est un accompagnement personnalisé et individualisé. Donc, un seul rendez-vous parfois peut être nécessaire si finalement la demande n'est que de l'information. Par contre, si y a besoin, ça peut se faire en 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Il n'y a pas vraiment de durée minimale ou maximale. C'est vraiment un service.
D'accord.
Donc voilà, on s'adapte aux besoins de la personne.
Et c'est confidentiel ou est-ce que les entreprises sont informées?
Alors, c'est vraiment confidentiel puisque c'est vraiment une démarche à l'initiative de la personne. Donc, il n'y a pas de lien, en tout cas pour un salarié, il n'y a pas de lien avec son entreprise. Les rendez-vous restent complètement confidentiels et ça se fait d'ailleurs en priorité en dehors du temps de travail.
D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut rapprocher ça d'un bilan de compétences que l'on effectue lorsque l'on est demandeur d'emploi ou salarié? Pas forcément, il y a des choses qui sont différentes tout de même.
Oui, il y a des choses différentes, mais il y a quand même des points communs, c'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences vont avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire formaliser un projet professionnel et élaborer un plan d'action, on va dire, pour le mettre en œuvre. La différence, finalement, c'est dans le contenu. Le bilan de compétences, ça va être beaucoup plus approfondi puisqu'on va faire un travail beaucoup plus précis sur l'analyse, par exemple, de la personnalité, l'analyse des intérêts professionnels, l'analyse des compétences.
D'accord. Est-ce que aussi, dans cette période un peu particulière, vos conseillers, qui sont des conseillers en évolution professionnelle, peuvent avoir un rôle de soutien, hein, on l'évoquait il y a quelques minutes, mais c'est important, un rôle de soutien psychologique?
Alors, ce ne sont pas,
des psychologues.
des psychologues, voilà. Par contre, effectivement, ça peut être un soutien dans le sens où ils vont être finalement une sorte de repère ou de personne ressource tout au long finalement de la construction et de la mise en œuvre du projet professionnel. Donc, en ce sens-là, oui, ça peut être effectivement un soutien, voilà, il n'y a pas de but, on va dire, thérapeutique dans l'accompagnement.
Oui, tout à fait, mais ça peut être une oreille, c'est déjà beaucoup.
Oui, tout à fait.
Les entretiens se font en ce moment par téléphone?
Oui.
Et ensuite?
Ou en visio.
Ou en visio, bien sûr. Et ensuite, vous allez continuer sur ce même schéma?
Alors, dès que la situation le permettra, on reprendra les rendez-vous plutôt en présentiel, puisque c'est la modalité, on va dire, prioritaire, puisque l'on a des conseillers partout sur le territoire. Hein, il est possible, finalement, d'accueillir quelqu'un physiquement au plus près de chez lui. Donc, bien sûr, dès qu'on le pourra, on reprendra cette modalité-là. Mais en attendant, les entretiens, enfin les rendez-vous se réalisent en visio ou par téléphone.
Quel conseil vous pourriez donner? On va terminer là-dessus, Marie. Après, vous nous rappellerez bien sûr les numéros de téléphone et le site internet où vous joindre. Le conseil que vous pourriez donner en cette période?
C'est justement de profiter peut-être de ce temps où on peut avoir plus de temps disponible pour réfléchir à sa situation professionnelle, pour questionner justement ses envies et ses aspirations professionnelles.
Oui, voilà, se poser.
Se poser.
Si on appelle le 09 72 01 02 03, on tombe sur un conseiller tout de suite?
Alors non, on tombe sur des chargés d'information qui sont là justement pour recueillir la demande de la personne. Et si cela correspond bien au service, conseil en évolution professionnelle, il lui propose un rendez-vous.
Merci beaucoup. On rappelle encore une fois le numéro de téléphone, c'est important, hein, 09 72 01 02 03. Et votre site internet, Marie ?
mon-cep.org.
Merci Marie. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet et continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Les entreprises s'adaptent à la crise et se diversifient à l'image de l'imprimeur en ligne Print-O-Clock, toulousain, qui lance sa propre production de masques réutilisables. Ils seront fabriqués à Toulouse. Nous en parlons avec Antoine Roux, le dirigeant de l'entreprise. Bonjour Antoine Roux.
Bonjour.
Print-O-Clock est une entreprise toulousaine d'impression en ligne, 70 salariés, c'est bien ça Antoine, et une clientèle essentiellement de professionnels?
Tout à fait. Notre clientèle est composée de TPE, PME, indépendants, associations, voilà, tout entrepreneur confondu.
Alors vous avez décidé il y a quelques semaines de diversifier votre production, puisque jusqu'à présent vous étiez spécialisé dans l'impression, on le disait, l'impression en ligne. Ça veut dire quoi impression en ligne? Carte de visite, étiquette?
Impression en ligne, c'est un mode de commercialisation, c'est-à-dire qu'on prend les commandes au travers du canal web. Et donc les paiements se font en ligne et les commandes sont suivies en ligne. Donc au niveau de la gamme produit, oui, c'est du papier, ça va être la carte de visite, la brochure, le livre, mais aussi tout ce qui est panneaux publicitaires et objets publicitaires. Donc une gamme assez large, on a un catalogue assez généraliste de produits.
Et donc vous n'auriez pas imaginé il y a quelques mois de cela encore vous lancer dans la production, la vente et la distribution de masques?
Pas du tout, évidemment. Hein. Et puis, à vrai dire, on s'en serait bien passé parce qu'on a bien notre métier historique. Et puis, effectivement, on a mis un petit temps à observer ce qui se passait en se disant que voilà, les acteurs de la filière allaient prendre le relais, ce qui a été fait. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on peut pas être un acteur dans ce monde-là? On a des machines, est-ce qu'on peut pas s'en servir pour produire des masques et des produits liés au Covid.
Il a fallu adapter vos machines, acheter de nouvelles machines également?
Non, pas acheter de nouvelles machines, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de livraison de machines, puisque tout le monde est à peu près à l'arrêt. On s'est simplement servi du matériel existant. On avait en fait essentiellement des tables de découpe, puisqu'on découpe des panneaux publicitaires, des bâches, etc. Donc des machines industrielles, une machine qui fait 3,20 m par 3 m, et sur laquelle on peut charger différents médias et les découper. Et donc on a fait des tests pour découper du tissu à la forme de masque, et puis évidemment ça s'est avéré être positif. Donc on est parti sur ce nouveau métier-là, effectivement.
Alors ce nouveau métier, on va parler des masques en tissu, c'est-à-dire que vous avez trouvé le tissu, un tissu qui est homologué, qui est français, qui est européen.
Ouais, alors c'est assez compliqué et peu lisible même pour les professionnels. Ceci étant dit, il y a la FNOR qui a publié un cahier des spécifications techniques des tissus, en tout cas de la composition possible pour réaliser un masque certifié à FNOR. Donc il y a un grand nombre de compositions possibles. Et nous, on est parti sur un coton popeline 120 fils, qui est un coton en fait qui est très respirable et qui pour autant est maillé très fin. Donc il y a une trame particulière qui permet donc à la fois la respirabilité et la filtration. Donc ça a été compliqué en fait de faire sourcing de tissu quand soi-même on n'est pas du métier, hein, on n'achetait pas.
Et c'est compliqué aussi de trouver des fabricants, bien sûr.
C'est
parce
ça,
que c'est une filière qui a disparu.
Exactement. Et puis les rares qui sont encore producteurs français sont hyper sous tension, puisque tout le monde s'est mis à commander du tissu, que ce soit pour un usage personnel, familial ou pour des besoins industriels. Donc ce tissu-là est une matière coton, donc ça nous semblait être une bonne piste, puisqu'il y avait aussi des matériaux synthétiques qu'on a testés au départ. On vend d'ailleurs des masques en chirurgicaux, donc là c'est du masque chinois, ou des masques et des masques en matière synthétique en parallèle sur le site. Mais la gamme qu'on a voulu créer, c'était une gamme Made in France, Made in Toulouse. Donc tout l'enjeu a été d'arriver à produire, à découper ces masques, à les faire confectionner et à acheter du tissu et des élastiques.
Voilà. C'est ça, pour bien prouver que c'est du 100% local, ou presque, exact. On va dire. Voilà pour la qualité, hein, pour le tissu. Ensuite, pour la fabrication, qui fabrique ? Vous avez dû trouver des couturières, un atelier de couture ?
Ouais, exactement. Alors on a fait le tour. Nous, on avait un petit réseau puisqu'on faisait du t-shirt imprimé sur Printoclock. Donc on faisait, on connaissait des brodeurs. Donc on s'est rapproché d'ateliers de broderie. Et puis en gros, on a commencé à travailler avec un atelier de couture toulousain qui a Colomiers, qui nous produit aujourd'hui 1000 masques par jour. Qui lui-même fait bosser des couturiers sur Toulouse, puisque lui c'est il a plus ce réseau-là, donc il gère la partie confection couture. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète le tissu, on le découpe, on achète les élastiques et on fait assembler à cet atelier les masques. Voilà. Et donc la caractéristique, et là c'est un peu un scoop pour la radio, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas une capacité aujourd'hui sur le masque coton très importante, de par le nombre de couturières qui sont entre guillemets disponibles, on est parti sur l'idée de faire un masque enfant. Pourquoi ? Parce que il y a très peu d'offres pour les enfants. Donc il y a beaucoup de couturières qui font des masques en petite série pour les enfants, mais voilà, on s'est dit que c'était plutôt sympa de
c'est une bonne idée effectivement
de proposer un produit local pour enfants avec un tissu qui nous semble super, quoi, super respirable, super léger, etc.
Donc Antoine, qu'on soit bien d'accord, ces masques que vous allez vendre, donc on va dire allez 100% toulousain ou presque, fabriqués à Toulouse, assemblés à Toulouse, cousus à Toulouse, est-ce qu'ils seront homologués ?
Oui, ils seront homologués. ils ont été déposés, ils ont été envoyés à l'AFNOR. Ce qu'il y a, c'est que l'AFNOR, vous imaginez bien qu'ils sont un peu débordés aussi, vu l'afflux de demandes de certification. Ce qu'on a fait, clairement, c'est de respecter scrupuleusement le cahier des charges. Donc, je vous dis, il y a pas mal de compositions possibles. Et nous, on est parti sur une des recommandations de l'AFNOR qui est la popeline, quoi. La popeline. Oui, oui. Donc, l'avantage, c'est qu'on a à mettre que deux couches au lieu de trois couches. Puisqu'au départ, on était parti pour la petite histoire sur un masque trois couches. Avec un tissu 150 grammes, le même tissu que vous pouvez avoir sur des t-shirts un peu basiques, et auquel cas il faut rajouter, si vous voulez, une matière viscose à l'intérieur qui fait office de filtre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masques qui sont conçus en trois couches.
Trois couches, oui.
Voilà. La popeline, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir de mettre que deux couches, donc du coup c'est plus respirant, et puis vu que c'est du coton aussi, c'est naturellement respirant. Il ne faut pas oublier qu'il y a la partie, il y a deux enjeux hein, dans la création d'un masque. Il y a la partie filtration, évidemment, pour se protéger, et la partie respirabilité, parce que si vous mettez un masque, je ne sais pas si vous avez testé beaucoup, mais il y a plein de masques qui peuvent être de très bonnes barrières filtrantes, mais pour autant très peu respirables. Donc du coup, on ne peut pas les garder longtemps.
C'est ça, il faut que ce soit confortable.
On cherchait à créer un masque, effectivement, qu'on puisse garder de manière confortable pendant un bon moment.
Et vous avez ouvert donc vos portes Internet aux clients, aux consommateurs. Vous êtes passé de B2B à B2C ?
Alors, on n'est pas passé de B2B à B2C, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce sont nos clients qui ont commencé à commander, qui ont initié les premières commandes. Mais effectivement, aujourd'hui, on ouvre en B2C parce qu'il y a une pénurie et qu'on a vraiment beaucoup travaillé, y compris les week-ends, etc. Enfin, là, c'est comme la création d'une nouvelle entreprise, hein, s'il vous plaît, quoi, parce que c'est un sourcing différent, des confections différentes, des normes différentes. Ça bouge beaucoup tous les jours. Hier, la TVA est passée à 5,5 sur les masques par décret qu'on a reçu. Bon, voilà, il faut être très, 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 très agile.
Voilà, c'est ça, très réactif. Ça change tous les jours, ouais.
Ça change tous les jours, et il faut arriver à décrypter l'information dans un monde où il y a beaucoup d'informations, soit partielles, soit en cours, quoi. Soit en cours d'officialisation.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question, oui, on a ouvert à la vente aux particuliers aussi, parce qu'il y avait un afflux incroyable de demandes et de gens qui sont paniqués parce que ils ne savent pas où trouver des masques.
Exactement, parce que on va retenir un chiffre quand même, 50 millions de masques par semaine en France devraient être produits d'ici à l'automne, mais c'est dans 5 mois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore difficile de trouver des masques, c'est la course.
C'est la course, bien sûr, c'est la course. Alors, la filière s'est quand même organisée de manière remarquable à l'initiative du ministère de l'industrie qui a mis dans la boucle au niveau du réseau, si vous voulez, de fabricants un groupement qui s'appelle Savoir-faire Ensemble, qu'on a rejoint, et qui nous permet de nous informer à la fois des normes, la communication auprès du consommateur, de l'étiquetage, des notices, etc. Donc, il fait un travail remarquable pour ça et qui a fait une espèce de plateforme avec les fabricants de tissus, les demandes, quoi, une espèce de place de marché où les gens peuvent échanger.
Ils seront vendus combien, les masques, Antoine, sur votre site ? On parle des masques toulousains.
Alors, les masques toulousains, les masques pour enfants seront vendus 5 euros hors taxe. Globalement, c'est un prix qui nous semble super raisonnable parce que globalement dans un masque vous avez à peu près 1,50€ de confection quand vous faites travailler des couturières locales,
de main d'œuvre,
plus élastique, etc. Donc si vous voulez, c'est pas un produit sur lequel on envisage de gagner de l'argent puisque de toute manière on peut pas en produire énormément. Aujourd'hui on est sur une cadence de 1000 ex par jour. Donc c'est un produit qui est là finalement pour amener notre pierre à l'édifice, pour montrer qu'on travaille sur le sujet et qu'on essaye d'aider la population à s'organiser.
Et Antoine, on va terminer là-dessus. C'est une filière aussi qui pourrait être relancée, pérennisée.
Vous voulez dire
la confection, bien sûr, bien sûr.
D'une manière générale, ouais. Vous voyez qu'il y a plein de sujets, hein, que ce soit la couture, mais même le masque chirurgical. Aujourd'hui, le masque chirurgical, qui est notre produit phare, hein, celui qu'on vend le plus sur le site, est importé de Chine, puisqu'il y a plus d'usines en Europe ou très peu. On a découvert hier qu'il y en avait au Portugal. Et puis vous savez vous avez peut-être vu, vos auditeurs ont vu le reportage qu'il y a une unité qui a fermé en 2018 en France qui fabriquait des masques chirurgicaux.
Bien sûr, on a dit on n'en aura plus besoin.
Donc ouais, c'est ça. Donc je pense effectivement qu'il va y avoir une grosse remise en question et qu'on va essayer de se réapproprier des savoir-faire disparus malheureusement. Et il y a les compétences. Je pense qu'il y a aujourd'hui, ça révèle vraiment ce besoin. Donc oui, je pense que durablement, la filière va bouger.
Merci Antoine Roux. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet, c'est tout simple ?
Tout simple, c'est printoclock.com. Donc print comme l'imprimerie, oclock comme l'alarme.com.
Merci Antoine. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com et continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com.